Juste avant que je ne partage cette parole fraternelle, oui, de vous encourager aussi dans vos prières à avoir une pensée pour la famille Mwamba, pour Judith et puis pour toute sa famille là-bas, et notamment celle de ce grand frère qui n'est plus là. On ne peut aujourd'hui pas éluder le fait que la rentrée est proche. Nous venons de le dire pour nos enfants ici qui, aujourd'hui même, font leur rentrée. Effectivement, la rentrée, c'est bien aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Car la semaine commence normalement, même si nous l'oublions parfois, le dimanche. Car c'est avec le Seigneur que nous voulons la commencer. Et si nous ne sommes pas sans savoir que, à commencer par les plus jeunes parmi nous, que nous sommes dans cette pleine période de rentrée, oh, ou scolaire, ou parfois aussi de reprise du travail. Là, c'est parfois un peu moins joyeux, quoique. Peut-être vous avez la joie de retrouver vos collègues, votre beau bureau, je ne sais pas. De le rappeler n'est pas toujours effectivement très apprécié de certains, car la rentrée peut être source d'angoisse pour les uns ou les autres. Mais le fait est que la semaine, cette semaine qui débute aujourd'hui, est une semaine dite de reprise, de rentrée. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être qu'elle a déjà même commencé pour plusieurs, il y a un moment. Et effectivement, il va falloir y retourner. Il va falloir aller travailler, voire reprendre son sac pour les plus jeunes. Et ça n'est pas toujours évident, car il va falloir remettre la machine en route, ne serait-ce que notre propre machine, notre carcasse parfois. Car il y a même tant à faire, il y a tant à recommencer. Ne serait-ce que par se lever même parfois plus tôt le matin pour soit reprendre sa voiture et se plonger dans les bouchons parisiens, ou alors emprunter le RER bondé comme à chaque heure. À vous de voir. Mais oui, ces mots resurgissent tout à coup, faire, travailler, œuvrer, accomplir. Tout cela va de nouveau rythmer notre quotidien. À moins que, bien sûr, vous ayez déjà repris le chemin de vos obligations depuis quelque temps. Or, certes, cela fait partie de la vie, mais ce matin, j'aimerais que nous nous interrogions un instant. Pourquoi travaillons-nous? Et plus encore, quels sont le sens et l'importance du travail, de notre labeur, de nos activités? Ou pour le dire encore autrement, comment, en tant que chrétiens, pouvons-nous penser cela? Alors, je vais faire une citation, ce n'est pas la plus courante hein, dans une église, mais un certain John Lennon a dit un jour: le travail, c'est la vie. Alors, il pourrait s'arrêter là, mais il a été plus loin. Le travail, c'est la vie, vous savez, et sans lui, il n'y a que peur et insécurité. En un sens, ce que cet artiste eût dit est assez vrai. De toute évidence, nous travaillons pour pouvoir gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent, pour pouvoir nous nourrir, etc., etc. Et si réciproquement nous nous nourrissons, c'est pour pouvoir avoir la force de continuer de travailler. Bon, il y a une forme de cercle. Je n'ai pas dit qu'il était vicieux, mais il y a une forme de cercle. Mais est-ce à cela que se résume notre existence? Est-ce comme cela qu'il faut considérer le travail, la nourriture, la vie même? Et dans son enseignement sur la montagne, ce sermon sur la montagne, Jésus donne un sens autre à ces mots: travail, œuvrer, accomplir, etc., etc. Il donne un sens nouveau, autre à ces mots qui forment le train-train de nos vies. Et en effet, pour Jésus, le travail n'est pas quelque chose qu'il nous faut faire. Et la nourriture n'est pas quelque chose à consommer et à ingurgiter, même si comme nous, parce qu'il s'est incarné, il a mangé. Non, Jésus dit que travail comme nourriture sont des grâces qui nous sont faites et avec lesquelles nous devons apprendre à vivre. Et avant de lire notre passage dans l'évangile de Jean, rappelons-nous que le texte que nous allons prendre ensemble est précédé d'un épisode très connu. Un épisode que parfois nous résumons par ce titre-là, celui de la multiplication des pains et des poissons. Une multiplication qui permit même de nourrir ce jour-là près de 5000 personnes, tel que cela nous est dit. Donc gardez en tête qu'il y a eu cela auparavant et que Jésus vient à dire cela après. Alors je vous invite à prendre l'évangile de Jean, en son chapitre 6, Et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 24. Donc, Évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 24. Et nous nous arrêterons au verset 40. Donc, Jean 6, à partir du verset 24. Voilà, et puis il s'affiche là, sur le mur, pour ceux qui veulent le suivre ainsi. Écoutons. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ses bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Et Jésus les répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. » Là, il fait notamment référence à ce qu'il vient d'accomplir peu avant, la multiplication des pains, entre autres. Et je continue. « Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu, le Père, lui, en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ? Le demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Sur quoi ils lui dirent, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ? Que vas-tu faire ? Et pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possède la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. Parole du Seigneur. Comme nous l'avons entendu ici, quand Jésus vient interpeller cette foule, c'est presque un groupe de groupies, hein, il va de l'autre côté du lac, ils le suivent. Hein. Quand il vient interpeller cette foule qui a traversé tout un lac pour le suivre, il y a presque de quoi être déconcerté si on se trouve parmi eux. Imaginez quand même ces efforts accomplis. Ils ont traversé un lac. Certainement, ils ont dû ramer, à moins que le vent les a portés ce jour-là, mais quand même. Cette traversée pour le suivre, de se retrouver de nouveau à côté de lui, en face de lui, pour entendre de la part de celui qui, en ce moment, suscite l'intérêt de beaucoup, et qu'ils vous disent, vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non. C'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Voilà la réponse que donne Jésus à tous ces gens qui se sont donné la peine de traverser un long lac et de se retrouver à ses côtés de nouveau. Si je me trouvais parmi eux ce jour-là, je me serais peut-être senti un petit peu rejeté par celui que jusqu'ici Je voulais suivre et entendre. Et pourtant, Jésus sait que le pain d'hier, celui même qu'il a multiplié, n'est plus. Et au pire, il est rassis. Il ne sera peut-être pas aussi bon à manger. Et cette foule fut rassasiée de manière certes éphémère, mais la faim chez eux est de nouveau là. Et cette faim n'est pas celle que l'on imagine, elle n'est pas au milieu de leur estomac. Et on a beau en manger encore et encore, il faudra recommencer et s'alimenter bientôt de ce pain qui fut multiplié. Et l'on comprend mieux alors quand Jésus dit « Ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte, qui est périssable. » Jésus, quand il dit cela, ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte, ce qui est difficile, ne travaillez pas pour manger, en gros, il leur dit. Ah bon? Difficile de l'imaginer. Jésus a en tête non seulement, bien sûr, le pain, que je mets ici entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui, quelque part, nous est vital, l'aliment minimum pour avancer chaque jour, c'est cela le pain, à la base. Mais par cette parole, il entend aussi par pain tout ce qui périt et qui n'a pas de valeur éternelle. L'argent. Travaille pour l'argent, mais lui, il va pas durer non plus. S'il y a une crise économique dans ces quelques mois, années qui viennent, certains la prédisent, allez savoir, peut-être que le dollar ne vaudra pas grand-chose, imaginez. Alors là, l'euro, je ne sais pas ce qu'il vaudra. Bref, n'allons pas chercher les scénarios catastrophes, mais l'argent aussi n'a pas de valeur éternelle. Les voitures, nous les achetons, nous les espérons fiables, souvent nous entendons qu'elles ont des garanties astronomiques, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, et puis parfois, au bout de quelques kilomètres, le moteur explose. Je connais un frère qui a vécu cela cet été. La voiture à peine neuve et boum! On n'a même pas le temps de partir en vacances avec. Quel dommage! Eh oui, une voiture aussi, même si la marque paraît confiante, n'est pas un bien éternel. Les maisons. Nous investissons parfois, quand nous en avons la chance, dans un logement. Les murs, cela paraît si solide et pourtant là aussi ça ne dure pas. Bref, je pourrais continuer la liste, mais toutes ces choses pour lesquelles nous travaillons, que nous avons besoin, parfois plus souvent, le désir d'avoir, tels les livres même, c'est pourtant des belles choses, tout cela n'a pas de valeur et ne durera pas. Et je pense que Jésus, quand il dit le pain, même s'il n'est pas dans notre société moderne, peut inclure tout cela. Il y inclut encore certainement des choses même immatérielles telles que le prestige, le pouvoir, le statut social, pardon, et la sécurité. Car nous travaillons aussi pour cela, parfois. Et de tout cela, que dit-il? Ne travaillez pas pour ça. Ne travaillez pas pour manger, ne travaillez pas pour avoir des murs autour de vous, ne travaillez surtout pas pour avoir une belle voiture, même une voiture pourrie. J'exagère, hein. Mais ne travaillez pas pour cela. Ne mettez pas vos efforts dans cela. Ne vous concentrez pas sur ça, n'en faites pas l'objet de votre quête ultime, pour le dire avec plus de précision. Car je crois que c'est là la pensée du Seigneur quand il s'adresse à cette foule. Non pas que toutes ces choses soient mauvaises en soi. Bien évidemment, nous avons besoin de manger. Bien évidemment, il est bon que nous ayons un toit au-dessus de nos têtes, et ne serait-ce qu'un peu de vêtements sur nos épaules. Mais ce qu'il vient à leur dire, c'est ne devenez pas esclaves de tout cela, parce que rien de tout cela ne vous satisfera jamais. Je pose la question, peut-être pour ceux qui sont un peu fans de ce genre de choses, qui n'a pas attendu avec impatience tel nouveau smartphone à la mode annoncé avec grande pompe par tel constructeur? Et le jour où il l'a acquis, a commencé à regarder un petit peu, quelques jours après, qu'en a-t-il fait, à part le ranger dans sa poche et passer à autre chose? Ben oui. Ces choses qu'on nous fait miroiter, qu'on veut nous vendre et qu'on achète parfois sottement ne nous apportent pas grande satisfaction, si ce n'est aucune. Et le Seigneur nous dit, restez libres. Travaillez pour autre chose, recherchez et mettez vos efforts dans ce qui dure et ce qui est source de vie éternelle. Voilà comment pourrait-on résumer, a priori, le sens des paroles du Christ. Et la foule réagit à ses propos. Et sa réaction est très intéressante. Alors je le retraduis dans un langage d'aujourd'hui, et quand on les entend, ils ont l'air de dire « Très bien » semble-t-elle dire, mais dis-nous ce qu'il nous faut que nous fassions pour recevoir cette nourriture. Et ils désirent la vraie nourriture, du moins ils pensent la désirer. Notez que la foule use du langage de la performance, de l'accomplissement. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Et c'est là que Jésus, notez bien, change radicalement les catégories quand il vient parler de ce que nous faisons jour après jour. Il change radicalement le sens des mots. Pour lui, tout à coup, le travail qui est attendu de nous n'a rien de laborieux. Il dit, le travail de Dieu, le travail qu'il attend de vous, c'est vous que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà votre job. Voilà ce que vous devez faire jour après jour. Croyez en lui. C'est surprenant, hein? N'allez pas dire à votre patron que je vous ai influencé dans ce sens-là. Aujourd'hui, je vais juste me contenter de croire en Jésus, cher patron. Pour le reste, vous vous débrouillez. Ça n'est pas ce que ça signifie, hein? Ne commencez pas comme ça demain. Mais Jésus ici nous fait entendre cela. Je le retraduis d'une manière un peu étonnante, mais votre travail, c'est de croire. Alors, c'est une drôle de parole. Mais travailler pour Jésus, ce n'est donc pas faire quelque chose. Je le dis bien, ça n'est pas faire quelque chose, c'est être. Travailler, tel que le demande la foule, hein, c'est donc vivre sa foi. Travailler, c'est une relation à Dieu et à Jésus. Travailler, c'est recevoir et s'approprier ce qui a déjà été fait pour nous. C'est accepter ce qui est résumé en Jésus, la vérité. La vie abondante, la vie éternelle, celle qu'il offre. Et quand nous entendons la foule face à cette réponse qui lui est donnée, nous ne l'entendons pas comme très convaincue par la réponse que leur offre Jésus. Cette foule a besoin de preuves, de plus de preuves, et elle a besoin que Jésus soit encore plus légitime à leurs yeux. Car qu'est-ce qu'elle lui demande encore quand elle se tourne vers lui? Elle lui dit, mais quel signe miraculeux peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions encore? Quelle œuvre vas-tu accomplir? On est là à nouveau dans le faire. Montre-nous, fais quelque chose parce que ça ne nous suffit pas. Nous sommes très certainement souvent comme cela, il faut l'avouer. Donne-nous quelque chose d'autre, semble dire la foule. Agis encore pour nous, pour que nous soyons sûrs que tu es supérieur à Moïse, pour que nous reconnaissions que tu es le Messie qui donne la vie éternelle. Et la réponse de Jésus peut étonner. Car qu'est-ce qu'il leur dit, en gros? Je me permets là encore de le réarranger, de le transformer un peu pour le rendre plus accessible peut-être. Il dit, mais je n'ai pas besoin d'accomplir quoi que ce soit d'autre, puisque je suis le don de Dieu qu'il veut vous faire. Je suis le pain véritable, celui qui compte vraiment. Le pain qui vient du ciel. Je suis moi le pain qui nourrit vraiment. Voilà sa réponse. Ils sont venus, ils l'ont suivi parce qu'ils avaient faim. Et il leur dit, ben, je suis là. Qu'attendez-vous de plus? Quel autre miracle avez-vous besoin? Il est là devant vous. Enfin, j'exagère, il ne le dit pas aussi directement, mais il l'est quand même explicite. Ainsi, Jésus essaye de leur faire entendre ou de faire entendre à cette foule que le miracle demandé a déjà eu lieu. Et qu'il se trouve devant eux en sa personne, lui, l'unique Dieu véritable qui s'est incarné pour leur faire connaître l'amour du Père. Voilà, chers amis, ce qu'est notre travail. Voilà ce qu'est notre nourriture. Vivre la foi en Jésus. Lui qui nous aime et qui nous donne sa vie. Ce dont nous avons besoin pour vivre, c'est lui, Jésus. C'est lui qui nous le donne, et c'est ainsi que nous pouvons le voir comme une grâce, car il n'y a rien à faire. C'est offert, c'est donné. Il a déjà tout fait. Et à l'image de cette foule, aujourd'hui encore, il se tient devant nous. Certes, nous ne le voyons pas physiquement, mais il se tient toujours devant nous, car il nous a assuré de sa présence jusqu'à la fin. Et en Jésus, nous sommes en sécurité. Non seulement il ne nous rejettera pas, comme il le dit, si bien sûr nous venons à lui, mais plus encore, il ne nous abandonnera pas. Il nous gardera dans sa surmain jusqu'à la fin des temps. C'est ainsi que nous avons fini de lire notre passage. Alors, de vous le dire comme ça, c'est presque très facile. Ça ferait presque l'objet d'une confession de foi. Mais dans la vie pratique, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Le travail qui nous est demandé, On ne prend pas au sens du travail qu'attend votre patron ou votre collègue, hein. Mais ce vraiment qui est au cœur de notre vie, ce qui doit être un peu la quête de nous chaque jour. C'est donc de venir et d'accepter de se laisser nourrir continuellement par lui, par Jésus. Notre job, notre travail au quotidien, y compris le samedi, y compris le dimanche, parce que, bon, nous ne sommes pas censés faire trop de pauses pour ce travail. C'est d'accepter la grâce, le don, l'amour de Dieu pour nous. Et notre travail, si je me permets encore de parler un peu ainsi, est de nous rendre disponibles pour recevoir cette grâce. Pas plus. Mais est-ce si facile? Est-ce vraiment si facile? On pourrait se dire que tout cela est un appel à l'oisiveté, attendre, c'est ne rien faire. Tout à l'heure, je l'ai dit en plus, il ne s'agit pas de faire, il s'agit d'être. Alors est-ce qu'il ne s'agit de rien faire quand même? Si tout ce que Jésus me demande, c'est de recevoir cette grâce, alors oui, je suis tranquille. Finalement, je n'ai peut-être même pas besoin de l'Église, on pourrait se dire. Je n'ai surtout même pas besoin de la communauté pour cela. Je peux, après tout, rester chez moi, m'occuper de moi, et puis c'est tout. Après tout, c'est lui qui me nourrit. J'ai juste qu'à me mettre sous perfusion, directement. Ça vient d'en haut. Pas besoin qu'il y ait quelque chose qui se joue à niveau de l'horizontale. Ce sera moi, ma foi et mon Jésus, et tout ira bien. On pourrait le résumer ainsi, si je prenais une forme de raccourci. Or, est-ce bien cela? Cela, à quoi cela nous encouragerait? Il n'en est rien de ceci. De cette forme de conclusion que je vous ai proposée, qui est quand même fausse. Cette grâce que Dieu nous donne doit nous pousser non pas à la passivité et à l'inactivité, mais à vivre pleinement nos vies de disciples du Christ. Qu'est-ce que ça signifie en servant? Alors, je ne vais pas décliner, mais peut-être même plus simplement, vivre, travailler tel que Christ nous y invite, vivre cette foi, c'est aimer. Nous sommes invités à aimer chaque jour, jour après jour. Peut-être aussi notre patron, hein, même certainement notre patron, pour ceux qui en ont un. Pour ceux qui sont le patron, ça sera d'aimer leur subalterne, peu importe. Mais oui, si nous sommes invités encore à vivre cette vie de disciple, c'est en donnant, en écoutant. Cette personne qui parfois au travail m'ennuie, me ressasse toujours les mêmes choses et à qui je n'ai pas envie de prêter une oreille parce qu'elle me saoule. Alors qu'elle a peut-être simplement besoin d'être écoutée, mais d'une écoute vraie. D'une écoute d'une personne compatissante qui a envie de connaître ce qui se passe dans sa vie et de le partager. Alors on ne sera peut-être pas facile de lui dire « je vais prier pour toi », quoique. Mais c'est cela aussi. Notamment, comme je le dis, si c'est en servant, en aimant, en donnant, en écoutant, en priant aussi, en portant du fruit, en croissant. Oui, Christ nous offre sa grâce, mais en même temps, il nous veut pleinement vivants. Il nous veut pleinement actifs, il nous veut pleinement à son service, ou pour le dire encore autrement, il nous veut pleinement à sa suite. Et c'est justement en cela que nous avons besoin de quelque chose que Dieu nous a donné aussi. C'est un merveilleux cadeau qu'il nous a donné, en plus de sa grâce et de ce salut. Et ce cadeau, parfois, nous ne le voyons pas comme un si beau cadeau que cela. Et pourtant, il est merveilleux. C'est la communauté dans laquelle il nous place, cette communauté qu'il nous donne. Ce sont ses frères et ses sœurs qui sont là, à côté de moi. Oui. C'est pour ça que nous avons besoin aussi de la communauté et des différentes activités, de ces temps de vie, de partage que nous pouvons y vivre. Encore une fois, Christ nous offre sa grâce, Christ nous offre sa vie et nous n'avons pas à la gagner, bien évidemment. Mais en participant aux activités de l'Église, nous vivons aussi cette grâce. Ces activités, ces temps de partage que nous pouvons vivre avec notre communauté, ou nos communautés, s'il y en a plusieurs. Nous avons tout à l'heure entendu les salutations et le témoignage de notre frère. Il a plusieurs communautés. Tout cela, cette vie communautaire, n'est pas un travail à accomplir pour être un bon chrétien. Car la communauté est là comme une ressource pour vivre toujours davantage la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. La vie d'une communauté chrétienne, pour reprendre une image d'un collègue, est-elle une assiette sur laquelle est servie la nourriture que Christ nous donne? Prenez-la comme vous voulez, hein. Je la trouve assez parlante. Oui, la communauté est-elle une assiette? Elle est-elle un plat pour recevoir le pain de vie, celui qui satisfait, celui qui rassasie? Pourquoi Dieu a-t-il voulu sauver un peuple? Pourquoi l'angle biblique du salut est très majoritairement sous l'angle d'un peuple ou d'une famille, d'une assemblée? Pour ces raisons-là. Il n'a pas choisi de nous sauver individuellement pour que chacun dans notre coin en témoigne. Parce que nous avons besoin de cette présence de la grâce dans la vie de chacun. Et c'est ça aussi qui prend part à cette nourriture dont nous avons besoin. Et certainement, en cette rentrée, j'en suis sûr pour chacun d'entre nous, plus ou moins, nous avons tant à faire. Qui parmi nous sait que dès demain et pour les semaines à venir, sa charge de travail est déjà colossale? Tant de travail, tant de pression, tant de personnes à satisfaire, tant de commandes, de courriers à traiter, qu'on se dit pourquoi je ne suis pas encore resté un peu plus en vacances si je le pouvais. Enfin, plus ou moins. Tant de choses à organiser. Et peut-être que certains d'entre nous se demandent, mais comment je vais réussir à caser tout ça alors que les choses reprennent tout juste? Je suis censé être reposé et déjà je me sens fatigué avant même de commencer. J'exagère un peu, mais je pense que parfois c'est un peu l'état d'esprit dans lequel nous pouvons nous trouver à la veille de la rentrée ou de la reprise. Oui. Et comment faire aussi pour, entre guillemets, caser et Christ? Et ma vie d'église, dans tout cela, dans cet emploi du temps surchargé, comment vais-je faire? Comment je vais concilier tout cela? Peut-être parmi nous, même certains se demandent, même s'ils auront le courage et la force, d'essayer d'être présents pour Christ, ne serait-ce qu'aller une fois par semaine, pourquoi pas le dimanche? Or c'est là, et c'est bien là que doit certainement nous interpeller notre Seigneur Jésus ce matin, dans ce que l'on entend là entre lui et cette foule. Christ nous demande de croire. Christ nous demande de vivre notre foi activement. Et c'est là vraiment la charge, la responsabilité qu'il nous confie, ce travail entre guillemets. Mais c'est une grâce. Ce qu'il nous demande là ne doit pas être pesant. Ne doit pas être regardé avec frayeur, car c'est une grâce. C'est une grâce qui nous aide même à vivre dans ce monde, pour tout le reste, toutes ces choses qui m'incombent, ces mails à traiter, ces collègues à gérer, etc., etc. Pourquoi je me permets de le dire ainsi? Et là, je vais reprendre l'illustration, une illustration, je l'espère parlante pour vous aussi, d'un collègue pasteur. La foi, prenez-le tel quel, je n'ai pas d'illustration, vous l'entendrez, la foi est comme un sac à dos. Vous avez tous vu un sac à dos un jour, vous en avez certainement même porté un. Alors des sacs à dos, il y en a de tout type, hein. Il y a ceux qu'on donne aux petits-enfants pour aller à l'école, ils sont tellement riquiqui que nous, déjà pour les mettre sur nos épaules, c'est dur, mais ils sont très légers. On ne les prend pas avec crainte, ceux-là. Et puis en général, ces enfants-là, ils sont tellement décorés leurs sacs à dos que c'est une joie pour eux de les avoir. C'est comme un déguisement. Et puis il y a parfois des sacs à dos pour ceux qui font du trekking ou du trail, alors j'y connais pas grand-chose, hein, mais pour les fans de montagne, là, alors, surtout s'ils partent pour une semaine, un mois, 2 mois, alors, je sais pas combien de temps on peut oser partir, là, le sac à dos en général, vous savez, il fait 2 ou 3 têtes au-dessus de vous, là. Ou parfois je le vois aussi sur des collègues motards quand ils vont au loin pour un grand rendez-vous, on ne les voit pas de dos. Il y a une espèce de gros sac sur une moto qui se déplace tout seul. On se demande s'il y a quelqu'un dessus pour la conduire. Choisissez le type de sac à dos, mais prenez l'idée que la foi est comme un sac à dos. Et il est là, posé par terre. Ce sac à dos nous est offert, gratuitement. Mais il faut l'accepter. Il va même falloir le prendre et le soulever. Alors, bon, on va prendre plutôt celui qui a la tronche du trekking, là. Le truc qui fait un peu peur quand même, hein. Il va falloir le soulever, le prendre et le porter, le mettre sur ses épaules. Et à ce moment-là, peut-être a-t-on un peu peur de s'en saisir. Parce qu'on se dit que, eh ben quand même, le truc là, il me paraît bien grand. Hein. Il doit être bien lourd, au vu de sa taille. Et que quand je vais l'avoir sur mes épaules, ben, il va me charger. Je vais pas avancer comme je le pensais. Je vais me traîner la patte, je vais avoir mal au dos. Bon, bref, vous râlez comme on râle hein, en France, on sait très bien le faire. Il va nous encombrer et nous ralentir dans notre vie. Comment vais-je faire au jour le jour? Mais ne nous arrêtons pas là, l'image n'est pas celle-là. Ce qui est merveilleux avec ce sac à dos qui est posé là devant vous et qui vous attend jour après jour, c'est que si on l'accepte de s'en saisir, c'est qu'une fois qu'on l'aura pris, on va se rendre compte de quelque chose de particulier. Ce n'est pas un sac à dos comme les autres. Il est non seulement grand, mais léger. Alors ça c'est bizarre, hein. On s'y attend pas trop en général. Oui, il est léger, mais en plus, ce qu'il contient est une aide précieuse. Car vous allez l'ouvrir, c'est quand même l'intérêt d'un sac à dos, on y met des choses pour aller aussi les prendre et les regarder. On y découvre comme un ballon d'hélium ou d'air chaud. Vous voyez un peu l'image. Telle une petite montgolfière qui est cachée au beau milieu de ce sac. Si bien que le contenu de ce sac à dos, pourtant si grand, si énorme, et qui pouvait faire peur, lorsque vous le mettez sur vos épaules, c'est le sac lui-même qui se soulève, de par sa légèreté, de par ce qu'il renferme à l'intérieur de lui-même. Et quand vous l'avez sur vos épaules, ce n'est pas quelque chose de pesant qui vous invite à tomber en arrière ou en avant, c'est quelque chose qui tout d'un coup vous donne de la légèreté. Et si peut-être vous aviez quelques difficultés à avancer dans votre vie, vous allez sentir que vous allez avancer un peu comme Neil Armstrong quand il a fait ses premiers pas sur la Lune. Vous voyez un peu l'idée? Hop, tout d'un coup, on fait un pas de géant, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? J'exagère un peu, mais voilà ce qu'est la foi, voilà ce que Dieu veut nous offrir au quotidien, si nous l'acceptons. Ce sac à dos que nous craignons de porter devient en fait un soulagement, une assistance pour notre marche. Aussi, mes chers frères, mes chères sœurs, à vous qui êtes aujourd'hui rassemblés, c'est aussi pour cela que l'Église existe. Si nous sommes Église ensemble, ce bâtiment-là n'est pas Église. C'est juste un local qui nous accueille. Nous sommes l'Église. Et des Églises, il y en a partout. Mais si nous sommes Église, c'est pour vivre notre foi ensemble. C'est pour recevoir toujours davantage la nourriture céleste ensemble. C'est pour recevoir cette grâce unique qu'est Christ pour nos vies. La grâce qui nous fait vivre abondamment. Aussi, en ce temps de début d'année, j'aimerais vous dire, mais ne nous en privons pas. N'en ayons pas peur de ce sac, de ce que Dieu veut nous offrir encore tout au long de cette année. Et en ce temps de reprise, en ce temps de rentrée, où plein de choses nous attendent, j'en suis sûr. Ne laissons pas nos préoccupations, notre travail, nos responsabilités, peut-être même nos propres soucis ou physiques ou autres, nous accaparer et nous tenir loin de cette grâce. Mais revenons, oui, revenons sans cesse à la source de vie, revenons à Jésus, à sa grâce qui veut nous accompagner chaque jour et nous donner la vie en abondance. Car si nous nous appuyons sur lui, ou si nous osons mettre encore ce sac à dos sur nos épaules, nous allons voir qu'avec lui, je vais réemployer les paroles d'un chant, mais c'est une parole biblique, nous ferons des exploits. Et l'exploit en question, ce n'est pas forcément une grande victoire, mais c'est de pouvoir avancer avec lui et faire des pas qui nous montrent que c'est avec lui que nous pouvons vivre vraiment. Et que tout ce qui se fait à côté de nous est certes important, mais est sans commune mesure que sa présence au jour le jour. Au quotidien. Amen. Inclinons-nous un instant et faisons silence pour nous recueillir. Seigneur, en ce début d'année, que ce soit pour les plus jeunes, les enfants, les étudiants, mais aussi pour beaucoup d'entre nous qui allons certainement reprendre le travail ou l'avons fait depuis peu, Seigneur, nous venons parfois vers toi avec crainte, en ne sachant pas comment nous y prendre, comment pouvoir accomplir toutes ces choses, ces responsabilités, ces charges qui nous incombent. Et Seigneur, parfois ce poids est tel que nous venons à t'oublier, à te mettre de côté, à te négliger. Et Seigneur, nous en oublions aussi que ta présence dans nos vies est une grâce véritable qui peut nous soulager, qui peut nous porter, qui peut nous inviter à envisager la relation avec soit nos camarades de classe, nos collègues, nos supérieurs, autrement et d'une manière tellement plus heureuse. Seigneur, nous avons grand besoin de toi, nous avons besoin de ta présence et nous te demandons pardon si nous t'avons peut-être oublié, mis comme de côté, sans pour autant t'avoir abandonné. Seigneur, merci parce que tu es grâce et que toi et toi seul, tu veux nous soulager, tu veux nous porter, tu veux nous aider, tu veux nous conseiller, tu veux nous donner vie. Aussi, Seigneur, que non pas seulement demain, mais tout au long de cette année, oui, nous puissions expérimenter plus encore cette grâce dans nos vies. Oui, Seigneur, à l'image peut-être de cette image qui ne vaut pas grand-chose, mais qui parfois nous aide à te comprendre et à te connaître, oui, que par cette foi que tu nous donnes, tu puisses rendre ce joug de notre quotidien plus léger encore. Et que peut-être par cette légèreté que nous donnera cette foi, tu fasses aussi des témoins de nous, des témoins de ta grâce autour de nous, avec nos copains, nos copines à la classe, avec nos collègues sur les bancs de la fac, tout comme avec nos collègues et nos responsables et ces employés qui sont avec nous et dont nous avons la charge. Oui Seigneur, fais que cette foi qui doit demeurer vivante puisse être source d'un rayonnement de ta grâce, source d'un témoignage de ta vie en nous, et que nous soyons peut-être déjà malgré nous les heureux témoins de ce que tu fais jour après jour dans nos vies. Seigneur, que tu puisses nous bénir chacun, que tu puisses nous donner la force d'avancer avec toi et par toi avant tout, afin que notre quotidien s'anime autrement, que le sens donné à notre vie soit aussi radicalement différent et prennent un tout autre goût, bien plus délicieux encore. Seigneur, merci à toi parce que tu nous accompagnes, et jamais, toi, tu ne t'éloigneras de nous. Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus, lui qui nous a fait connaître ses promesses pour chacun, pour nous, ton peuple, que nous te prions là ce matin encore. Amen.